au plaisir d'insolence.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'émission qui prend le temps de parler littérature.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Au plaisir d'insolence, l'émission donc qui prend le temps de parler littérature. Et aujourd'hui, une littérature qui au fond est un peu inattendue, car je reçois Jacques Le Goff, historien bien connu, etc., etc., mais homme de tous les talents, de beaucoup de livres, qui a beaucoup fréquenté d'écrivains d'ailleurs. Bonjour Jacques Le Goff.
Bonjour Elisabeth.
Je crois d'ailleurs que votre vocation, vous le dites souvent, a été déclenchée par un livre.
Oui, par le Walter Scott, par Uanoué de Walter Scott, par un roman historique. Quand je suis devenu professeur d'histoire et, si j'ose dire, historien, j'ai en général détesté les romans historiques, mais c'est un roman historique qui est à la naissance de ma vocation.
Et pourquoi vous détestiez les romans historiques ?
Parce qu'il me semble que la réalité est plus belle que la fiction.
Bon, mais alors maintenant, donc, vous me racontez que vous ne lisez plus, à part évidemment les livres sur le Moyen-Âge, qui est votre grande passion, que quel type de livre, donc ?
Écoutez, j'ai beaucoup lu des livres de tout genre dans le domaine qui constitue ce qu'on appelle la littérature quand j'étais jeune, disons jusqu'à 25 ans. Et j'ai eu de grandes passions littéraires. Par exemple, j'ai adoré Balzac, j'ai adoré Roger Martin de Gard. J'aimais beaucoup la poésie également, et je trouvais qu'elle tenait une place insuffisante dans l'éducation et dans les divertissements, si j'ose employer ce mot, mais c'est un divertissement au vol.
Quel poète, par exemple ? Quel était votre grand poète, au fond ? Est-ce que vous en aviez un ?
Je n'aimais pas tellement les grands poètes du passé, à une exception qui annonçait déjà peut-être ma vocation de médiéviste. J'ai lu assez tôt et avec passion la Divine Comédie de Dante. On vous pose parfois cette question un peu bébête, si vous étiez seul dans une île déserte, quel livre aimeriez-vous avoir avec vous ? Et je crois que j'aurais répondu la Bible, la Divine Comédie et Proust. Donc j'avais des goûts assez éclectiques. Ensuite, j'aimais deux poètes allemands. J'ai fait de l'allemand au lycée et j'aimais deux poètes allemands très différents, d'époques très différentes, que je lisais soit dans les traductions françaises, soit dans le texte original, car à ce moment-là, je comprenais bien, je parlais même un peu l'allemand. C'est Heine, au 19e siècle, et au début du 20e siècle, Rilke. Mais ce sont des poètes français plus récents qui m'ont vraiment apporté une véritable joie, si je peux dire. Il y avait d'abord un poète que j'aimais pour sa simplicité et sa fantaisie, qui était Jammes. Par exemple, une chose qui, à première vue, paraît un peu simpliste, même simplette, et je trouvais que c'était un magnifique poème, « Prière pour aller au paradis avec les âmes ». Et puis alors, surtout, ma grande passion, ça a été Henri Michaux. Il y avait là, je crois, un poète qui, pour moi, contrairement à ce que l'on disait souvent, n'était pas du tout obscur, parce que je crois que si on entrait dans sa pensée, dans son œuvre, on comprenait ce qu'il voulait apporter. Et puis est arrivée ma période professionnelle qui n'a pas cessé. Je suis devenu médiéviste. Et comme je pense que, au contraire d'ailleurs de ce que l'on fait trop souvent dans les universités, c'est le Moyen-Âge tout entier, pas seulement le Moyen-Âge des institutions, le Moyen-Âge des événements, le Moyen-Âge politique et économique, mais aussi le Moyen-Âge de l'art et le Moyen-Âge de la littérature. J'ai donc beaucoup lu de livres sur le Moyen-Âge et quelques livres du Moyen-Âge, notamment les romans arthuriens.
Il faut dire que pour vous, le Moyen-Âge dure près de 1000 ans. Ça, on le dirait autrement, mais enfin, donc c'est une large période de temps.
Plus que ça, oui. Ma chère Elisabeth, parce que le Moyen-Âge officiel, si je peux dire, part du 4e, 5e siècle avec la christianisation et la fin de l'Empire romain, jusqu'à la fin du 15e et ce qu'on appelle la Renaissance. Mais pour moi, la Renaissance, c'est un second Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge finit véritablement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle en Angleterre et la révolution politique en France.
C'est les Lumières, au fond.
C'est les Lumières.
Oui. Mais alors, donc, pour revenir à vos goûts, attention, littéraire, oui. Non, je disais ça parce que vous disiez, je lisais des choses en rapport avec mes recherches et je voulais dire que vos recherches étaient extrêmement vastes et couvraient une énorme zone de temps et d'espace parce que vous êtes quelqu'un aussi qui s'intéresse à l'étranger.
Si j'aimais, comme me l'avait appris mon maître François Braudel, étudier, si possible montrer et expliquer l'histoire dans la longue durée, on ne peut pas être aussi savant sur une période aussi longue. Et par conséquent, le Moyen-Âge sur lequel je me suis concentré, c'est le Moyen-Âge qui va à peu près du milieu du XIIe siècle jusqu'au milieu du XIVe siècle. C'est d'ailleurs une période qui m'a paru beaucoup plus que l'an 1000, qui est une invention de quelques historiens, et qui a eu d'autant moins d'importance au moment où l'humanité le vivait, que la plus grande partie de l'humanité, y compris les hommes d'Église, ne savaient pas que c'était l'an 1000, parce qu'on ne comptait pas encore un calendrier de cette façon. Donc c'est ce Moyen-Âge central qui, me semble-t-il, a été celui de la grande mutation. Et en définitive, la création et la naissance de beaucoup de choses qui ont annoncé, je parle surtout du Moyen-Âge occidental, la modernité et des réalités, qu'il s'agisse des institutions comme l'université ou de la sensibilité encore de nos jours. J'ai essayé de définir dans un article ce qui s'est passé à cette période par la descente des idées du ciel sur la terre.
Oui, ça c'est une très belle
phrase.
Parce
que je crois que ce qu'il y a eu, c'est que jusque vers cette fin du XIIe siècle, la plupart des hommes et des femmes d'Occident situaient les valeurs dans le ciel et dans la perspective du salut. Alors que, entre le milieu du XIIe et le milieu du XIVe, et surtout le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe, nous ne semble pas être, s'il faut donner une date, un petit peu la période du tournant, les hommes se sont rendus compte que ce qui leur incombait, et comme ils étaient restés le plus souvent chrétiens, ce qui correspondait aux vœux du Dieu qui les avait créés, c'était de réaliser des vertus, de la beauté, de la bonté sur terre. Le salut ne venant que comme une éventuelle récompense.
De surcroît, comme
vous
disiez.
Oui, de surcroît.
Oui. Alors, c'est intéressant parce que vous parlez du Moyen-Âge occidental, mais l'une de vos passions littéraires aujourd'hui, puisque vous m'avez choisi deux auteurs, l'une de vos passions littéraires aujourd'hui, c'est M. Van Gulik, qui est un drôle de personnage, et c'est donc le Juchti qu'il a créé, enfin pas qu'il a créé, qui existait au 7e siècle, au moment de la dynastie Tang. Et ce Van Gulik, alors je dis, est un drôle de pistolet, puisqu'il était fils de médecin militaire, il était diplomate,
il était hollandais.
Alors, il a écrit, donc il était hollandais, il a écrit en néerlandais, bien sûr, puisqu'il était hollandais, mais aussi en anglais, en japonais, en latin, il connaissait le malais, il connaissait le chinois, et enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs.
Le chinois mandarin,
mais aussi le javanais et le malais, hein, donc il fallait le faire. Il jouait du luth chinois, il dessinait ses illustrations.
Oui, extraordinaire, et qui pourtant, si je ne m'abuse, est mort à 57 ans, relativement jeune.
Oui, il est mort très jeune.
Et qui a réussi...
Pour avoir trop fumé, je le dis à ceux qui fument.
Produire une œuvre extraordinaire.
Alors racontez-nous donc, qu'est-ce que c'est le...
Voilà. Bien au-delà de cet ensemble de romans qui entrent dans l'ère de ce qu'on appelle les romans policiers, qui se passent donc dans cette Chine du 7e siècle, et dont le personnage principal, qui est le policier, en quelque sorte,
Je crois qu'il est juge.
Oui, c'est le juge. Et il y a dans cette suite de romans une des caractéristiques qui représente pour moi le caractère attractif de ces romans. Car de notre conversation, ma chère Elisabeth, vous avez gardé le nom de deux grands auteurs de romans policiers, dont l'un est Van Gulik, dont nous venons de parler, et d'autre est le Suédois Mankell, dont je pense nous allons parler. Mais à vrai dire, mes intérêts, mes lectures ont été plus vastes. Je l'imagine. Non, je demande en particulier dire l'importance qu'a eu pour moi Agatha Christie. Agatha Christie, qui d'ailleurs est toujours d'actualité. Et je me réjouis de voir qu'on fait des films à partir d'elle. Et chez Agatha Christie, il y a une des choses qui m'attire dans le roman policier, c'est-à-dire un type de policier tout à fait original, tout à fait attractif. C'est le fameux Hercule Poirot.
Avec ses têtes d'œuf et puis ses moustaches qu'il cire tous les jours.
Absolument, absolument. Oui. Et je dois dire que je suis très heureux que depuis quelque temps, il y ait, moi je le vois à la télévision, une série, c'est longue, Agatha Christie a énormément publié, qui est consacrée aux énigmes que déchiffre ce petit personnage un peu ridicule, qui est Hercule Poirot, qui est une création, je crois, absolument remarquable. Et surtout, je suis heureux de revoir ces histoires à la télévision, car depuis quelques années, Hercule Poirot est incarné par un acteur que je trouve extraordinaire, qui est David Suchet.
Oui. Alors, pourquoi c'est ce goût du policier ? Alors là, on ne s'attend pas quand même à ce que vous, homme éminemment sérieux, bien que vous ayez toujours aimé les jeux avec les mots, vous aimez Raymond Devos, on en parlera à un autre moment peut-être. Pourquoi le policier ? Est-ce que c'est parce que vous avez fait du roman policier vous aussi toute votre vie ? Est-ce qu'un chercheur, après tout, historien, n'est pas aussi ? Est-ce que Agatha Christie aurait mérité d'être en partie étudiée par les annales ?
Pourquoi pas ?
Par le mouvement des
pourquoi
annales.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, c'est parce que je m'intéresse à la découverte d'un secret. Et il y a donc mouvement essentiel du roman policier qui est l'enquête et la découverte d'un secret, en l'occurrence le plus souvent la découverte d'un criminel. Je dois dire aussi que il y a peut-être, je me le suis demandé, un côté un peu moraliste dans mon intérêt pour les romans policiers, parce que je crois que les criminels doivent être châtiés. Et par conséquent, qu'un policier, si possible, original, doué, amusant, fascinant, découvre des criminels, c'est pour moi une forme d'histoire. Et parmi les formes de fiction historique, c'est celle qui non seulement me divertit le plus, mais qui me divertit au fond sans m'éloigner de la recherche de l'historien.
Je alors c'est drôle,
à la limite que l'historien est un détective.
Oui, mais alors c'est rigolo parce que vous, finalement, vous choisissez plutôt Agatha Christie, plutôt Mankell, plutôt Van Gulik, parce que au fond, vous ne parlez pas du roman noir américain, vous ne parlez pas de Hachiel Hammet, vous ne parlez pas... Alors ça, voilà. C'est étonnant
alors,
pour un homme comme
sur
vous.
Sur le roman noir américain, je me suis beaucoup intéressé, j'ai été séduit par les premiers romans de la fameuse collection de la série noire chez Gallimard. D'autant plus que, comme à ce moment-là, je travaillais un petit peu avec Pierre Nora chez Gallimard, je les recevais. Mais depuis, et alors là, actuellement, c'est une de mes détestations. C'est le dérapage du roman policier qui se moque de l'énigme vers la noirceur de l'histoire. C'est ce qu'on appelle un thriller. Je déteste les thrillers.
En voilà
et
de l'insolence.
Malheureusement, je vois que ça gagne aussi le cinéma où la vogue des thrillers...
Du trash, dit-on aujourd'hui. Alors, avant de prendre une petite pause qu'on va prendre avant de continuer, je voulais vous citer quand même la phrase ou le désir de votre cher Mankell qui disait qu'il y aura bientôt, il faut qu'il y ait bientôt un Nobel de littérature pour les policiers, pour le genre du roman policier.
Pourquoi pas ?
Est-ce que vous seriez d'accord ? Est-ce que vous trouvez très bizarre qu'on élimine la littérature policière du Nobel, finalement,
alors,
de littérature
là... Vous le savez certainement mieux que moi, à la fois parce que vous connaissez beaucoup mieux ce domaine et que vous avez une meilleure mémoire. J'ai l'impression que quand a paru le 100e roman édité dans la série noire, il y a eu un texte de Sartre sur le roman policier. Et il me semble que Sartre montrait que le roman policier dans la littérature contemporaine était un grand genre et méritait donc, je crois qu'il ne parlait pas de prix Nobel, mais méritait d'être mis sur le même pied que le roman, la poésie, etc.
Bah Edgar Poe est un grand auteur.
Edgar Poe.
Qui est l'ancêtre du roman policier, dit-on
bien
parfois,
sûr.
Oui.
Bien sûr. J'ai oublié que. À côté de Mankell et de
Van Gulik,
et d'Agatha Christie dont je viens de parler, il y a aussi plus récemment un auteur policier américain qui m'a subjugué, fasciné, c'est Andrea Camilleri.
Racontez-moi parce que je ne connais pas.
Qui s'est mis à écrire à l'âge de 70 ans, il en a même de plus de 80, mais il n'a pas, à ma connaissance, publié depuis un certain temps. Et lui encore, il a trouvé un policier tout à fait étonnant, qui est Montalbano, qui vit dans une petite ville de Sicile. En plus, c'est écrit dans une langue bizarre qui pose beaucoup de problèmes aux traducteurs et même aux lecteurs italiens parce que c'est une langue qu'au fond il a créée. Parce que c'est un mélange d'italien et de sicilien plus des tournures et même des mots qu'il a inventés. Il y a eu de très bons traducteurs. Je dois dire que je n'ai lu à peu près la moitié dans la langue originale, parce que je lis assez bien l'italien. Et dans les traductions françaises. Et alors, ces romans policiers qui se passent en Sicile. Et ce qu'il y a aussi de très remarquable, c'est que Camilleri a réussi à transplanter en Sicile des histoires tragiques, des histoires d'assassinats, dans lesquelles la mafia en tant que telle ne joue pas de rôle. Elle est là, dans le paysage environnant, mais ce sont, au fond, des meurtres comme ils sont produits partout.
Mais vous vous rappelez peut-être, il y avait un roman policier, que je le dis de mémoire, qui se passait en Hongrie au moment de la Révolution hongroise, et on trouvait trois cadavres qui n'avaient rien à voir avec la Révolution hongroise.
Non,
c'est une histoire assez intéressante.
Ouais.
Tous ces gens, ou alors il y a ce fameux roman russe du vol des hermines, vous savez, où
oui,
on fait un trafic
oui.
d'hermines, et on trouve des cadavres qui n'ont...
Il y a quelques bons romans
oui.
russes, et actuellement... Il commence à y avoir quelques bons romans policiers chinois qui sont écrits par un Chinois émigré aux États-Unis, mais qui se passent dans la Chine contemporaine et dont le contexte est extrêmement intéressant d'un point de vue historique.
Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Nous recommençons dans quelques minutes. Je suis avec Jacques Le Goff qui nous parle et nous parlons romans policiers.
Canal Académie vous propose un grand entretien avec Michel Serres de l'Académie française sur la notion d'identité. Quelle différence entre identité et appartenance? Qu'est-ce que l'hominescence? Quel rapport entretenons-nous avec notre corps? Autant de questions auxquelles répond Michel Serres dans une émission Éclairage en libre téléchargement sur Canal Académie.
Jacques Le Goff, nous vous retrouvons pour le plaisir d'insolence. Et aujourd'hui, l'insolence, elle est un peu spéciale. C'est-à-dire que nous parlons aux policiers. Les policiers sont finalement des manières d'étudier la société d'une façon tout à fait bizarre et insolite, et non insolente. Et vous parliez des Chinois. Et moi, j'aimerais bien qu'avant de passer à autre chose, vous reveniez à Van Gulik. Parce que, est-ce que Van Gulik, avec son fameux juge Ti, vous a appris des choses sur le Moyen-Âge chinois qui sont très différentes du Moyen-Âge occidental que vous nous décrivez.
Absolument. Je dirais honnêtement que l'intérêt historique n'a pas été la principale raison de mon plaisir à lire Van Gulik, mais ça a compté. Ça a compté, et en effet, en lisant Van Gulik, très souvent, je pense à ce qui se passe non pas à la même époque, parce que, on le sait ça, la Chine est en avance sur l'Occident, mais disons au XIIe ou au XIIIe siècle en Occident. Et parmi les choses qui me fascinent, ce sont des institutions comme le mandarinat, c'est la façon dont un idéal qui est aussi une pratique, qui a été plus important dans le Moyen-Âge occidental qu'on ne le croit et qu'on ne l'a dit, est absolument capital dans la Chine de cette haute époque qui est la justice. Il y a là, n'est-ce pas, une recherche de la justice et qui, si je me permets de faire une remarque de caractère politique, je crains bien que le régime chinois actuel n'ait un peu oublié ce passé de la Chine.
On va leur envoyer les enquêtes du juge Ti.
Voilà.
Voilà, pour leur rappeler un petit peu. D'ailleurs, ce coquin de juge Ti, je le dis tout de suite, a aussi produit une vie sexuelle dans la Chine antique. Donc, il était pluraliste.
Absolument.
Oui. Et alors, donc, est-ce que ce 7e siècle, parce que quand même, c'est le 7e siècle, c'est assez bizarre, est-ce que l'approche aussi des Chinois du monde et de... et du salut finalement, enfin, et de, parce que vous parliez de la justice, pas du salut pour eux évidemment, mais de d'une certaine morale, d'une certaine éthique chinoise. Enfin, est-ce qu'elle est très proche de l'Occident ou est-ce que d'ores et déjà on voit bien la différence entre... Vous savez, Joseph Needham disait que la différence, Joseph Needham, qui est le grand
Bien
historien de la
sûr,
science chinoise,
que
je le
j'ai lu
rappelle,
avec passion.
et que j'ai rencontré, moi, Keith College,
Ah.
plusieurs fois, qui était un homme très intéressant, disait toujours que la différence entre la Chine et l'Occident, c'est que nous avons eu des procès de sorcières. Après le Moyen Âge, je le dis tout de suite, parce que ça vous fâche quand on dit que c'est
C'est
contemporain,
vrai.
c'est au Moyen Âge. Des procès de sorcières, et les Occidentaux étaient assez arrogants pour imaginer que quand un coq pondait un œuf, il fallait pendre le coq, parce que c'était évidemment contre les lois de la nature. Alors que, disait-il, les Chinois auraient pendu le gouverneur de la province, car c'était un signe des dieux qui montrait que les dieux n'étaient pas contents. Est-ce que vous voyez ça aussi dans la Chine du
Sûrement,
Moyen Âge?
sûrement. Parmi les personnages qui peuplent les romans de Van Gulik, à côté des danseuses, à côté des juges, à côté des administrateurs, à côté des marchands, il y a énormément de brigands. On voit, n'est-ce pas, une Chine et le juge qui lui-même ne se déplace qu'avec des escortes militaires très sévères, et si je ne m'abuse, il y a un roman où il est fait prisonnier par les brigands. Et il me semble qu'il s'en tire, non pas parce qu'on vient le délivrer, mais parce qu'il en impose aux brigands et qu'il se sauve lui-même, si je peux dire.
Oui. Bon, alors, donc,
Alors, il y
oui.
a un grand oubli dans ce que nous avons
Oui,
dit.
alors allez-y.
L'oubli, c'est Simenon.
Ah oui.
L'oubli, c'est Simenon. Alors là, je vais être très franc, comme je le suis dans tout ce petit discours que vous voulez bien me demander, Elisabeth. Le personnage de Simenon lui-même, historique, me déplaît beaucoup. Je trouve que c'est un personnage qui, par ses positions politiques et idéologiques, qui aussi par son nombrilisme, est assez déplaisant, mais il faut
Reconnaître.
reconnaître que c'est un des plus grands auteurs de romans policiers et que c'est un de ceux qui ont le plus alimenté le cinéma en grands films policiers et que lui aussi a trouvé son policier exceptionnel et qui a toujours, je crois, beaucoup de succès sur les écrans de télévision, c'est Maigret.
Vous auriez bien incarné Maigret, d'ailleurs.
Vous croyez?
Oui.
Parce que je suis un peu gros.
Non,
Mais
mais...
j'ajouterai encore une chose, parce que vous voyez, je mêle souvent le compliment et l'admiration à la
À la
critique
critique, oui.
des grands acteurs qui ont incarné Maigret. Celui que je préfère, c'est l'actuel, qui d'ailleurs incarne Maigret depuis déjà assez longtemps, c'est Bruno Kremer.
Kremer,
Ouais.
merveilleux.
Parce que je n'aimais pas du tout le Maigret
Richard.
incarné. Richard,
Oui.
j'étais moyen,
Simenon, il y
mais
avait aussi Gabin qui a
il y a
incarné.
eu Gamma,
Il y a eu Gabin
je
quand même.
déteste Gamma.
Oui. Ah, bon.
Et je déteste Gamma que je trouve
Ah, mais Kremer,
borné
c'est l'homme de
d'insuffisance.
Schindler. C'est quand même.
Ouais.
Kremer est un grand, grand acteur.
C'est ce
Oui.
que je trouve.
Oui. Et alors, bon, alors j'aimerais quand même que vous nous parliez de quelqu'un que je connaissais mal, et du coup j'en ai relu quelques passages, quelques livres, c'est Mankell. Alors,
Alors, Mankell lui-même, je crois qu'il faut dire deux mots du personnage qui
oui,
est
alors lui,
étonnant.
oui, allez-y, oui.
D'abord, ça ne joue aucun rôle, me semble-t-il, dans son œuvre. Mais il faut signaler que c'est le gendre du grand cinéaste Bergman.
Pour sa
et lui
quatrième femme, hein, il est comme les ogres, sa quatrième femme.
et
Oui.
lui-même donc Mankell, depuis assez longtemps, partage sa vie entre une petite ville de Suède et une ville africaine, si je ne m'abuse,
Maputo,
oui,
au
où il
Mozambique.
a créé, au Mozambique, où il a créé une troupe de théâtre. C'est donc lui-même un personnage assez étonnant. Et alors, il a créé un type de policier qui est probablement, de tous les grands policiers du roman policier, le plus humain. Celui qui a en même temps le plus de faiblesse.
Oui, il s'appelle Kurt Wallander.
Oui, voilà. Kurt Wallander, oui. Mais que je trouve aussi extrêmement séduisant.
Oh, bah, il est drôlement dépressif.
Oui, il est dépressif. Il est dépressif. Mais alors, ce qui est assez extraordinaire, ça, je crois que c'est le talent de Mankell, c'est que ce dépressif trouve les criminels.
Oui, ça c'est déjà, oui, c'est déjà bien. Et alors, Mankell dit que, enfin, il semblerait que le fait qu'il vive au Mozambique fait qu'il a un œil tout à fait différent sur la Suède.
C'est ce qu'il dit.
Ce qui est intéressant.
C'est ce qu'il dit. Et l'œil qu'il a sur la Suède n'est pas très optimiste.
Oui, apparemment, il dit que c'est nous qui avons créé les belles blondes et le modèle suédois, mais que vu de l'intérieur, c'est pas du tout ça, quoi. Donc lui aussi, il décapsule vraiment le modèle suédois. Alors, il y a toute sa famille qui vit à Wallander, c'est-à-dire il y a sa fille. Il vient de divorcer au premier roman.
Oui.
Il a une fille qui s'appelle Linda, et cette Linda, on la voit grandir.
Il a divorcé, il a une maîtresse.
Voilà, bah, évidemment, oui, il ne peut pas vivre tout seul.
Oui, mais une maîtresse qui ne vit pas avec lui, ce qui pose encore un problème. Ah. Si je ne m'abuse, elle vit au Danemark.
Oui.
Et il va de temps en temps la retrouver en prenant le ferry entre la Suède et le Danemark. C'est un peu comme le Montalbano de Camilleri. Qui a une, entre guillemets, fiancée, qui est journaliste à Gênes. Et alors, entre Gênes et la petite ville sicilienne, ce sont les échanges de coups de téléphone, de télégrammes. C'est un des ressorts l'action. De temps en temps, Montalbano oublie un peu l'intrigue sicilienne dans laquelle il est imbriqué pour se déplacer en pensée à Gênes.
C'est peut-être le secret du bonheur, d'être loin. Bon, en tous les cas, Mankell dit, parce que Mankell aussi, alors il faut dire, a fait de la littérature pour jeunesse, a fait du théâtre, a écrit des pièces de théâtre, et il dit une chose que je trouve tout à fait intéressante, moi qui suis tellement attachée aux Grecs. Il dit: je travaille dans une vieille tradition qui remonte aux Grecs anciens, qui utilisait le miroir du crime pour observer ce qui se passe au sein de la société entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Or, ça, c'est très intéressant parce que je trouve, à tort ou à raison, que ça rejoint votre recherche, Jacques Le Goff. Vous cherchez toujours le rapport entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas.
Je me permettrai simplement de citer, car je ne m'en rappelle malheureusement plus très bien, les intrigues. Ce qui, je crois, m'ont fait le plus d'impression parmi ces romans policiers, il y a Le guerrier solitaire, Les morts de la Saint-Jean et La muraille invisible. D'autre part, comme Wallander, il me semble que Mankell est très sensible aux femmes, y compris les femmes policières. Et un des coups de théâtre, si je peux dire, qui n'a pas de rapport avec les crimes dont il cherche à élucider, il y a un petit coup de théâtre dans l'histoire de son commissaire qui avait eu des relations difficiles avec sa fille. Et un beau jour, sa fille lui apprend qu'elle veut devenir policière.
Oui, et elle est en plus, à la fin, je crois qu'elle tombe amoureuse en plus d'un autre policier, ce qui est absolument bon. Alors la boucle est bouclée, et finalement ça finit bien. Je disais qu'il était dépressif, mais finalement ça finit pas trop mal.
Au point où l'année, ça finit bien.
Bon, Jacques Le Goff, je vous remercie de cette vision de vos goûts sur la littérature policière et sur des drôles de policiers un peu étranges et qui sont les miroirs, en effet, les miroirs du crime, le miroir de la société. Merci.